Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne me connaissent pas. Mon nom est Paul Corriveau. J'ai été pasteur dans ma vie, ici dans cette assemblée pendant 30 quelques années, là. Et puis, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'exerce mon ministère toujours dans cette église, en rendant service principalement à ceux de la famille, incluant les petits-enfants. Et puis, voilà, c'est ça. Mais c'est un plaisir, c'est une joie d'être ici ce matin pour réfléchir un peu, pour penser, pour réfléchir, pour méditer sur la bonté de Dieu. On va examiner ensemble un passage des Écritures que vous connaissez bien sans aucun doute parce que vous êtes des gens très bien éduqués dans la parole de Dieu. On va prendre le temps de l'examiner à nouveau, d'y penser, de réfléchir, de le méditer parce que ça ne peut pas faire de mal. S'arrêter pour réfléchir et méditer à la parole de Dieu, ça ne peut faire que du bien. Amen. Dieu sait à quel point on a besoin de penser à ce qui nous fait du bien. Pas juste ce qui est agréable, mais ce qui nous fait du bien. Donc, on lit le passage dans Lamentations, chapitre 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Ou dans une autre traduction, la Bible du Sommeur, ça nous dit, « Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. On va prier ensemble si vous le voulez. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour tes compassions qui se renouvellent aujourd'hui et demain et après-demain et la semaine prochaine. Encore et encore, tu renouvelles tes compassions à notre égard et nous voulons juste te dire merci aujourd'hui. Puisses-tu ce matin ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse être capable de voir les merveilles qu'il y a dans ta loi, dans ta parole. Viens parler à chacun de nos cœurs aujourd'hui, à chacune de nos vies, et nous t'en donnerons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle appartient, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Et amen. Comme vous êtes des gens très bien renseignés sur les choses dans le monde en général, vous savez sans aucun doute que le mois de mai est reconnu internationalement comme le mois de des feuilles qui poussent, de la neige qui est partie, non, le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Le but est de sensibiliser à l'importance de la santé mentale qui est aussi cruciale que la santé physique. Savez-vous qu'un Canadien sur cinq souffre de maladies mentales chaque année? Il n'y en a pas au Québec. Mais un Canadien sur cinq, non, sérieusement, c'est réparti sur tout le territoire. Ça implique des troubles de l'humeur, des troubles de dépressifs majeurs ou des troubles bipolaires, des troubles anxieux, schizophrénie, des troubles de personnalité, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'usage de substances. Je crois que ça ne peut pas nous nuire de prendre un moment pour réfléchir à l'importance de notre discours intérieur. Maintenant, ce matin, je n'ai pas la prétention de me présenter comme un intervenant en santé mentale, ce que je ne suis pas, encore moins un spécialiste. Je laisse cela aux gens qui sont dûment formés dans ce domaine et dont la vie devrait certainement être suivie lorsqu'ils posent une indication par rapport à notre condition si on les a consultés. Mais même si je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale, je crois certainement que la parole de Dieu contient des trésors de sagesse. Que la parole est pleine de conseils qui sont remplis d'intelligence et qui peuvent contribuer à créer, à développer, à soutenir un climat intérieur dans notre cœur qui va être sain, serein, paisible. Et cela ne peut être que bénéfique pour notre santé mentale. Quand on s'arrête et qu'on réfléchit à la parole de Dieu, ça fait du bien au-dedans. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Ça lui fait du bien. Alors, on va réfléchir donc. Notre discours intérieur. Le discours intérieur, ou si vous cherchez un mot scientifique pour ça, si vous voulez rajouter ça dans votre conversation cette semaine, vous allez paraître plus intelligent. On appelle ça l'endophasie. Nous traiterons donc ce matin de l'amélioration de notre endophasie. L'endophasie. Le discours intérieur, c'est la faculté donc de se parler à soi-même dans sa tête sans produire de son. Combien il y en a qui savent que ça, c'est possible? C'est cette petite voix dans notre tête. Ça inclut des pensées, des dialogues, des images mentales qui se produisent silencieusement. Tu sais, les genres de paroles, tu ne seras jamais capable de faire ça. Ou, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir cet entretien ou cet examen. C'est mieux d'avoir cette phrase-là qui nous tourne dans la tête devant, en préparation pour des semaines d'examen qui approchent à l'école bientôt, là. D'autres phrases qui peuvent circuler comme « tout le monde te trouve bizarre ». Ça peut arriver. Ça va bien aller. Au pire, il y aura autre chose de mieux. On se parle. Et ça, on appelle ça l'endophasie. L'endophasie, la capacité de se parler à soi-même. Vous pratiquez l'endophasie, drette là. Coudon, veux-tu me dire où est-ce qu'il va s'en aller avec ça un matin? Il dit que c'est pas un spécialiste, mais il arrête pas de nous parler de la santé mentale. Coudon, on est-tu dans une église ou bien non, dans une salle de psy? Non, on est bien dans une église. Rassurez votre partie qui vous parle, là. Le discours intérieur est important. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, le discours intérieur joue un rôle crucial dans la structuration de la réalité, dans la régulation des émotions, dans la planification et la performance en influençant directement la confiance en soi et les comportements. En sport et au travail, un discours intérieur positif ou un discours intérieur motivateur améliore la concentration et la persévérance. Combien il y en a qui connaissent une équipe qui a manqué de discours intérieur positif? Non, je ne parlais pas de Paris Saint-Germain qui eux autres ont gagné la coupe. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est d'un autre sport, dans un autre continent. Donc, en sport, le discours intérieur, ça améliore la concentration, la persévérance, tandis qu'un discours négatif, dénigrant, augmente l'anxiété. Mais on peut changer ce discours-là en disant, oui, mais l'année prochaine, on va avoir plus d'expérience. L'année prochaine, on sait qu'est-ce que c'est le prix à payer pour être capable de gagner. On appelle ça, ce discours-là, la dureté du mental. Ça, c'est pas une conclusion d'un brillant psychologue, là. Mais on peut certainement parler, le dire en d'autres termes, la bonification de notre endophasie. Selon l'approche cognitive, maîtriser le dialogue intérieur, cette capacité de maîtriser ce discours-là, c'est un levier puissant pour améliorer notre bien-être et atteindre ses objectifs. Cela joue un rôle clé dans notre santé mentale. Avoir une dureté du mental, c'est bon pour notre âme, pour notre cœur. Dans un article de la Royal Bank of Canada en mars 2019, ça disait ceci, « Vous vous parlez probablement beaucoup. Vous ne prononcez peut-être pas les mots à haute voix, mais le bruit entre vos deux oreilles peut parfois être assourdissant. » Selon les psychologues, cette habitude s'appelle le discours intérieur. Donc, c'est un flux de pensées presque constant qui comprend des observations, des opinions, des idées, des sentiments. Encore une fois, si votre discours intérieur est négatif ou pessimiste, vous pouvez ressentir de l'anxiété, de la déprime, de la colère, de l'inquiétude. De nombreuses études ont démontré qu'en rendant votre discours intérieur plus positif, vous pouvez améliorer votre santé mentale et physique et même favoriser votre réussite en affaires dans d'autres sphères de votre vie. Mais bien avant toutes ces analyses, toutes ces recherches, toutes ces études, le peuple de Dieu, Les véritables croyants savaient, eux. Ils savaient que ceux qui lisent et qui aiment les Écritures et qui les méditent connaissent bien le passage. « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand j'y pense, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me fera du bien et ce qui me donnera de l'espérance. » Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jérémie disait donc, « Quand je pense à ma misère, quand je pense à tout mon trouble, ça ne va pas bien, mon âme est abattue. » Alors la question se pose, quelle était donc la misère de Jérémie? Quelle était la détresse de Jérémie? Pour qu'il dise, « Quand je pense à ça, je suis tellement abattu. » Le livre des Lamentations a été rédigé peu après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, en 586 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une expression de deuil, en voulant dire, qu'est-ce qui vient de nous arriver là? C'est un peu ça l'expression des Lamentations. Cette expression de deuil s'est faite à chaud, alors que l'horreur du siège et de l'incendie de la ville était encore très vive dans l'esprit du prophète. Dans le fond, c'est le témoignage oculaire du prophète Jérémie face aux ruines de la ville et à la détresse que son peuple subit. Merci pour la lumière. Israël était en exil, loin de tout confort, lorsque la parole est venue. Dieu merci, la parole peut nous atteindre n'importe quand, même en exil. Même loin, loin de chez nous, même dans l'inconfort, même entouré d'un peuple d'une autre culture ou d'une autre langue, d'autres habitudes et d'autres coutumes, la parole peut nous atteindre. Amen. La parole, Dieu peut nous parler. Et c'est ce qui est arrivé ici, alors qu'ils étaient en exil, qu'ils étaient loin et qu'ils découvraient la Babylonie et tout ça, et puis après les circonstances tragiques, après des pertes de vie, après de la souffrance innommable, c'était ça qu'ils expérimentaient. Qu'est-ce que c'était donc toute cette misère-là? Quand je pense à ma misère alors que je suis en exil, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Donc la misère de Jérémie, mais là, on ne prendra pas le temps de tout lire ça, mais dans Lamentations chapitre 3, si vous voulez le faire à la maison, vous le pouvez, vous faire des recherches. Dans Lamentations chapitre 3, versets 1 à 18, ça décrit tout ce qui était l'état de la misère de Jérémie, pour qu'enfin, quand il arrive et puis qu'il dit, « Bien là, quand je pense à tout ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Sa misère était la suivante. Verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère. J'ai vu la verge de sa fureur. » Il a vu donc la destruction. Il a vu la tragédie se produire. Il a vu la misère se produire parmi le peuple. Puis finalement, l'exode. Babylone, cette nation puissante et sauvage, était la verge de la fureur de Dieu pour la nation juive. Alors, il a donc vu la souffrance du peuple. La misère de Jérémie, c'était de voir cette souffrance-là parmi son peuple et la ressentir, bien sûr. La destruction de la ville, la destruction du temple, tout est en train de s'écrouler. Ça ne va pas bien. Au verset 2, il poursuit en disant, « Et il m'a conduit... Il m'a mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Comme si la verge de la fureur, la verge de la discipline était déjà assez mauvaise, mais les ténèbres ont rendu la situation encore pire. S'asseoir dans les ténèbres, c'est comme demeurer parmi les morts. Ici, on parle de ténèbres, de noirceur. Qu'est-ce que ça amène, la noirceur et les ténèbres? La crainte, la peur. Anxiété, qu'est-ce qui va se produire maintenant? Je ne vois pas rien. Alors, en plus de la tragédie, en plus de l'exil, il y avait la crainte qui venait se rajouter à tout ça. Verset 3. « Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Ici, Jérémie exprime le fait que la main de Dieu était contre lui. Le résultat de toute cette souffrance était que Jérémie avait pris... il avait été magané, il avait pris tout un coup de vieux, comme on dirait. Verset 4, ça dit, « Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. » Votre peau dépérit-elle? Ah, de façon inévitable, tôt ou tard, ça va finir par se produire. Peu importe la qualité de la petite crème que vous allez utiliser, le poids des années finit par faire son effet à un moment donné. Mais ici, de façon prématurée, Jérémie dit, ça n'arrête pas. Je suis en train de vieillir avant mon temps. Verset 5. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il a bâti autour de moi, donc, une prison. Il se sentait confiné. Il se sentait encerclé par des murs, entravé par des chaînes, pris au piège. Il se sentait pogné. Ça va pas bien. Il avait raison de se sentir misérable, pauvre Jérémie. Il poursuit au verset 8 en parlant de sa misère, en disant, « J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Lorsque Jérémie levait le regard pour prier, il ressentait que Dieu lui avait claqué la porte au nez. Là, ça ne va pas bien. Quand même Dieu ne m'écoute plus, quand je pense à ma misère, à tout ce qui est en train d'arriver là, et c'est de ça qu'il parlait ici, là. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça poursuit au verset 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Je suis l'objet de moquerie, de manque de respect, ridiculisé, atteinte à mon intégrité morale. » Ils ont des chansons irrespectueuses. Le manque de respect à son égard, ça peut être douloureux, ça. Être méprisé. Injustement. Subir les moqueries de l'autre, ça peut être douloureux. Quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Versets 17 et 18. Jérémie poursuit en disant, « Il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. » En bon québécois, je taboute. Je suis rendu au bout, à l'extrémité. Plus de paix, plus de bonheur, plus de force, plus d'espérance. Ça va pas bien. Alors, dans tout ce contexte-là, Jérémie dit, quand je pense à ma condition, quand je pense à tout ça, à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on pense à notre misère. Chacun sa misère, hein? Jérémie, c'était ça. Mais vous et moi, c'est d'autres choses. Quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est votre misère? Avez-vous été abandonné? Quelqu'un vous a laissé tomber quelque part en cours de route? Avez-vous perdu votre emploi sur la base d'une fausse information que quelqu'un aurait donnée? Une injustice profonde que vous expérimentez? Avez-vous subi une tragédie? Expérimentez-vous une misère difficile? Ou peut-être que vous attendez et attendez encore pour un service essentiel. Ça semble pourtant aller plus vite pour les autres. C'est pas juste. Quand on est dans une filée de voitures, à travers d'autres filées de voitures, pourquoi c'est toujours la nôtre qui avance pas à la bonne vitesse? Pourquoi quand on se tasse à gauche, c'est celle-là qui ralentit. Puis tous ceux en arrière de qui on était depuis trop longtemps sont tous passés en avant maintenant. C'est pas juste. C'est pas une grosse misère. Mais des fois, c'est une misère qu'on peut trouver longue, hein? Ou peut-être que vous expérimentez de la maladie, il n'y a pas beaucoup de soins, ou il y a beaucoup de souffrance, à l'épaule, aux hanches ou ailleurs. Mais il y a un Dieu qui écoute la prière et qui est capable d'intervenir. Amen. Et ça nous a été bien rappelé ce matin. Ou peut-être c'est la souffrance du coût de la vie. Hein? Tout coûte de plus en plus cher et les ressources, elles, sont limitées. Ou peut-être tout ça, ça crée une peur face à l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ah Seigneur, qui sait qu'est-ce que c'est l'avenir? Hein? Voyons, l'IA sait qu'est-ce que c'est l'avenir. Qui qu'on voit être, nous autres, dans l'IA? Ça devient difficile à imaginer pour des gens qui ont connu la roulette sur un téléphone branché dans un mur. Impossible à comprendre pour les jeunes de la nouvelle génération. Mais pour d'autres, pas si vieux que ça, qu'est-ce que ça va être? Et toute cette inconnue peut susciter justement de la noirceur, des ténèbres et de l'inquiétude. Peut-être expérimentez-vous un sentiment d'être emprisonné à quelque part. Vous êtes pris au piège d'une situation, d'une relation ou d'une complexité difficile dans votre vie. Peut-être que votre misère, c'est de... Vous autres aussi, coudonc, vous pouvez dire la même chose que Jérémie. Coudonc, c'est comme si Dieu ne m'écoute plus à ça maintenant quand je prie. Oh, c'était bon d'entendre cette parole qui nous était rappelée ce matin, que Dieu entend notre intercession. Même dans le lieu secret, quand on n'est pas si sûr que ça a traversé le plafond, Dieu est capable d'entendre du haut du ciel. Subir les moqueries au travail, dans le voisinage, dans la famille, ce n'est pas quelque chose d'agréable non plus. C'est ça votre misère? Peut-être que vous n'avez plus de paix, plus d'espérance. Ça ne va pas bien. Quand on pense à notre misère, ça ne va pas bien. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a un psaume dans la parole de Dieu qui nous illustre bien la réalité du discours intérieur qu'on parlait de l'endophasie tantôt. Là. Dans le psaume 42, verset 6, nous lisons « Pourquoi t'as battu mon âme? » Hein, c'est moi qui parle à toi. Moi, je parle à mon âme. Moi qui parle à moi. Okay? Le discours intérieur. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au verset 12 du même psaume, le refrain revient encore. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Pourtant, c'est le même psaume qui, au tout début du psaume au verset 2, nous lisons comme une biche. Soupir après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, et je désire tellement être dans ta présence. Mais pourquoi mon âme est-elle si abattue? Voyons, branche-toi, mon âme, espère en Dieu parce que je vais le louer encore. Amen. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. On voit deux étapes donc ici dans l'expression de ce discours intérieur que le psalmiste a avec lui-même ici. Là, hein? La constatation de l'état de son âme, l'âme est abattue. Et deuxièmement, l'action que je ferai, je vais le louer encore. Sage décision. Même dans les moments de découragement, on peut se dire encore, je louerai Dieu encore. Et on peut commencer à louer Dieu. On peut commencer un chant, celui qu'on connaît depuis si longtemps, depuis très longtemps. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça va faire du bien à votre cœur, à votre âme. On voit donc dans ce passage ici que « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » On voit donc dans ce passage l'expression d'une profonde détresse intérieure, la mélancolie, le doute, tout en posant une question pour encourager à l'espérance en Dieu malgré les circonstances difficiles. Le psalmiste s'adresse à lui-même, comme on fait dans notre endophasie personnelle, hein, en constatant un état de tristesse ou d'angoisse intense. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était la persécution? Est-ce que c'était la tragédie? Est-ce que c'était le sentiment d'être éloigné de Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis dessus au-dedans de moi. Hein? La question n'est pas une résignation, mais un appel à se relever. La question est suivi de « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Le texte invite donc à se souvenir des bienfaits de Dieu et à passer de la plainte à la louange et à se confier en sa fidélité plutôt qu'à ses émotions du moment. Il s'agit donc là d'une recette, une prière classique qui a traversé les siècles. 586 avant Jésus-Christ, et puis dans les psaumes, ici, c'est la même chose, et puis on peut le voir encore même dans le Nouveau Testament plus tard, pour surmonter le découragement en détournant les yeux de la tempête pour les tourner vers Dieu. Même si on est loin de là où on se sent à l'aise, où on est bien, et qu'on se retrouve plutôt au cœur de l'inconfort, on peut encore se tourner vers Dieu. Où qu'on se trouve, où que l'on soit, même très loin de notre zone, de notre confort, de notre culture, on peut toujours choisir de louer Dieu. Je peux toujours choisir de m'approcher de Dieu. Paul et Silas connaissaient cette recette dans le Nouveau Testament. Hein? Dans Actes chapitre 16 et verset 25, nous lisons que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas n'étaient pas à la synagogue ou n'étaient pas dans la nouvelle église en train de louer Dieu parmi les croyants. Non, 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 ils étaient plutôt dans la prison. Hein? Ils étaient entourés, non pas d'autres croyants comme eux, remplis de sourires et de bonne attitude et des gens remplis de confiance envers l'Éternel. Non, il n'y avait que des prisonniers autour d'eux. Des gens désabusés, des gens durs, des gens méchants. Des gens cruels. Et dans le milieu de la nuit, dans le milieu de qu'est-ce qui fait encore plus noir, qui est encore plus froid, c'est encore plus décourageant, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est donc possible de louer Dieu même dans la prison. Vous vous sentez emprisonné, pogné, louez Dieu. Vous vous sentez découragé vers le milieu de la nuit, louez Dieu. Dans les passages précédents, on voit qu'ils avaient été battus de verges. Vous avez été battus? J'espère pas physiquement, mais même si, émotionnellement, vous avez été atteint, vous avez été touché, même battu, vous pouvez louer l'Éternel. Chargé de coups, jeté en prison. Chanter la fidélité de Dieu, louer sa grandeur, même en prison, blessé, maltraité, injustement accusé, c'est ça qui les a conduits éventuellement vers la libération, vers la délivrance. Parce que pendant qu'ils louaient Dieu, à un moment donné, le tremblement de terre est arrivé. Vous connaissez l'histoire, les portes de la prison se sont ouvertes, et puis les prisonniers étaient pour sortir, et puis le geôlier, il était pour se zigouiller parce qu'il a dit, je vais mourir, ils vont me tuer. Si tous les prisonniers sortent d'ici ce soir, cette nuit, je suis fait à l'os. Alors Paul lui a dit, non, ne fais pas ça. Et puis il a posé la question, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quelle bonne question, hein? Crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, et tu seras sauvé. Hein? Et puis, il a cru au Seigneur Jésus, et sa famille a cru au Seigneur Jésus, et puis il a été épargné, il a été sauvé. Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis Dieu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Et mon Dieu. Alors, après avoir constaté l'état, notre misère, notre souffrance, notre difficulté que nous expérimentons, le psalmiste dit ici donc, espère en l'Éternel. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous fait du bien et non pas sur ce qui nous décourage. Nous devons penser, réfléchir, méditer sur la bonté de Dieu. Relisons encore une fois Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 21. Jérémie dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Voilà, c'est ça. Voici c'est quoi la chose-là. Hein? « Voici ce qui va me donner de l'espérance. » Avez-vous besoin d'entretenir un discours intérieur qui va vous redonner de l'espérance? « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. » Qu'est-ce que je veux penser? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est encore bon aujourd'hui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est encore capable d'avoir compassion de moi. Dans ma souffrance, Dieu peut compatir. Lorsque je crie à lui, son cœur peut être touché. Je peux me sentir si éloigné, mais en même temps, son cœur à lui est prêt. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux ouverts pour voir les bontés de Dieu, les compassions de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Amen. Que Dieu nous donne des yeux pour reconnaître son action, sa main. Merci, Seigneur, pour ces expressions de ta bonté. Hein? Ce matin, par exemple, en sortant de la maison, on regarde vers le sud, vers la rive sud, gros nuages noirs menaçants. On lève nos regards vers le nord. Le nord. Et on regarde vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le parc, et c'est le ciel bleu. Et en s'approchant de Le Bourgneuf, c'est le soleil qui était là. Ah. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon pour les gens de la rive sud? Non. Ils auront leur soleil un petit peu plus tard, sans aucun doute. Mais on peut voir la bonté de Dieu, et pas juste dans la création, mais dans la création aussi. Voir la bonté de Dieu, voir la fidélité de Dieu, voir la grandeur de la fidélité de Dieu. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est ça que je devrais penser. C'est comme ça que je devrais essayer de modifier, de changer mon endophasie, hein? Mon discours intérieur. Ces temps-ci, on nous dit qu'on devrait prendre soin de nous, que c'est important pour assurer un équilibre devant les trop nombreuses demandes qui nous sont dirigées continuellement vers nous. C'est pourquoi c'est essentiel, c'est très important d'avoir un discours intérieur qui est positif, mais qui est aussi biblique, pas juste positif, mais biblique, qui est fondé sur la vérité, sur la parole. Il est possible et certainement souhaitable d'exercer un contrôle sur nos pensées. Peut-être pas sur l'apparition surprise d'une pensée qui nous arrive de nulle part, mais définitivement sur notre choix de s'y attarder ou non. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voilà ce que je décide, hein, de penser. Voilà ce à quoi je veux arrêter ma réflexion et ma pensée. Qu'est-ce qui devrait occuper mes pensées? Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, Paul écrit, Philippiens 4, vous connaissez, hein? Ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Hein? Et ça nous dit aussi dans Philippiens chapitre 4, ça nous dit quoi d'autre, donc? Ah, ça nous dit toutes sortes de bonnes choses dans Philippiens 4. Ouais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est dans Philippiens 4. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans Philippiens 4, verset 8? Au reste, frères, et on peut inclure sœurs dans le domaine ici, hein, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de votre endophasie, soit l'objet de votre discours intérieur. Ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. C'est-tu vrai? C'est-tu une menterie qu'on me dit là? T'es stupide. C'est-tu vrai ça? Non. Je peux être stupide des fois, mais pas stupide à temps plein tout le temps. Je peux poser des actions stupides des fois, mais ça ne veut pas dire que je suis un stupide éternellement. Alors, on a besoin donc d'ajuster notre discours ici, que ce soit basé sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, mérite l'approbation. Juste, si vous avez besoin d'un petit conseil pour cette semaine, pour réfléchir à l'amélioration de notre endophasie, hein. Ça fait rechercher, hein, comme pensée. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train d'améliorer mon endophasie. Vous utilisez des grands termes, hein, c'est ça, des grands termes. Juste essayer d'apprendre par cœur, méditer Philippiens 4:8. Pas compliqué, c'est juste un verset. C'est faisable. Hein? Oh, je suis trop stupide pour apprendre ça par cœur. Non, vous n'êtes pas trop stupide pour apprendre ça par cœur. Je vous dis, vous êtes assez intelligent pour apprendre ça par cœur. Et savez-vous quoi? Si vous l'apprenez, si vous le méditez, si vous vous le répétez, encore pire, encore mieux, si vous le faites tous les jours de la semaine, savez-vous quoi? Ça va rester. Et de temps en temps, quand il y aura un petit peu trop d'endophasie négative qui va vous dire, « Ah, t'es stupide, t'es niaiseux, tu ne l'as pas, tu manques tout le temps ton coup. » Ça pourra repartir. Vous, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ça commence par le vrai, après ça, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, je ne l'ai pas appris par cœur, je lis sur le champ, mais je vais l'apprendre par cœur. J'aurais dû apprendre ça par cœur avant. J'aurais fait moins de choses stupides peut-être, de temps en temps, si je l'avais su. Hein? Que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur. C'est quoi les quatre mots déjà? Vrai? Honorable? Oh, vous l'avez devant les yeux. Ah. OK. Fermez vos yeux et dites-le. Vrai, honorable, juste, oui. Juste et aimable. On commence par quatre, après ça, il y en a quatre autres. L'avant-midi, on médite ces quatre-là, on pense vrai, honorable, juste, pur. Bon, OK? Vrai, honorable, juste, pur. Vrai, honorable, juste, pur. Vrai, honorable. Ah. Ça va bien quand la lumière est là, hein? Ah, la puissance des ténèbres, soudainement la crainte surgit dans notre cœur, hein? Non. Vrai, honorable, juste, pur. Je lis sur mon papier et la lumière est allumée. Aimable mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, OK? Ça se fait d'apprendre ça par cœur, hein? Vrai, honorable, juste, pur. Tu vois? Hein, c'est déjà clenché. Il s'agit juste de revenir un petit peu sur la route à la maison tantôt, encore sur les quatre, puis après ça, on rajoutera les quatre autres après-midi, puis finalement, on va déjà avoir fait notre devoir. Après ça, on le répète chaque jour cette semaine. Que tout ça soit l'objet de vos pensées. Dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23, nous lisons dans la transcription en français courant, c'est dit si clairement ici. Avant tout, avant de faire toutes sortes de choses que tu as à faire. Tu sais, la liste de toutes les choses à faire, là, hein? Sortir les vidanges, peinturer la salle de bain, etc., etc. Toutes les choses à faire, là. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est-à-dire, prends garde à ton endophasie. Prends garde à ton discours intérieur. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Parce que ce que tu vas expérimenter dans la vie dépend de tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas méditer, parce que ça va conditionner ta manière de réagir et ta façon d'intervenir. Avant tout, prends garde à ce que tu penses. Vrai, honorable, juste, pur. Hey, ouais, vous êtes bon. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Mon âme bénit l'Éternel. Le gars qui a composé ça s'appelle Jonathan Mongogwa. Connaissez-vous Jonathan Mongogwa? L'IA va tout de suite te montrer c'est qui Jonathan Mongogwa. Vous apprendrez de plus qu'il est né à Kwilu Ngongo, dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. C'est un gars, un croyant, un disciple de Jésus certainement, quelqu'un qui aime louer Dieu. Il a grandi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans une famille de 6 enfants dont il était le cinquième. Cinquième. Qui veut être le cinquième enfant sur 6? Le premier était le plus vieux, c'est la fierté, c'est le plus grand, il connaît mieux que tout le monde, puis lui, il dirige, puis lui, tu sais, il a tout vu naître les autres en arrière de lui, ça, c'est le boss. Le sixième, c'est la petite fille, c'est le petit garçon, c'est le bébé, c'est le dernier qu'on va dorloter, puis que tous les grands frères, les grandes sœurs vont aimer. Mais 2 à 5, là, c'est quoi la différence entre 5 puis 2? 3. Un dans le milieu de toute cette gang-là, mais c'était Jonathan. Et Jonathan avait un cœur pour louer Dieu et il aimait Dieu. Et il a expérimenté dans son Congo natal également aussi toutes sortes de choses. Ça fait 30 ans que le Congo subit toutes sortes de tensions ethniques, la guerre, la séparation. 30 ans! On chiale ici parce que ça prend du temps à réparer les écoles, les hôpitaux, avec raison. Les routes, hein? Toutes sortes de choses, oui. Qui aurait besoin de réparation. Mais il y a plein d'autres endroits dans le monde qui auraient plein de choses qui auraient besoin de réparation aussi. Depuis 30 ans, ce pays-là expérimente cette tension ethnique, en tout cas cette guerre-là. Puis dernièrement, il y a une éclosion de Ebola au Congo aussi. Hein? Ça, c'est par contre dans la province de l'Ituri, qui est plus dans l'ouest. Oui, dans l'ouest, c'est ça? Dans l'ouest? Oui, dans l'ouest. On dit qu'il y a quelque chose comme des centaines de morts maintenant. Il n'y a toujours pas de vaccin qui est trouvé. Mais ça atteint non seulement la province de l'Ituri, mais également aussi le nord Kivu et le sud Kivu. Et puis, nous autres, on connaît des gens qui vivent là-bas, qui servent le Seigneur là-bas. C'est pas facile la vie en République démocratique du Congo. Et c'est pas facile la vie à Québec non plus. C'est d'autres sortes de difficultés. C'est d'autres sortes de problèmes. Mais il pouvait chanter, et nous pouvons chanter, « Je n'oublie aucun de tes bienfaits. » Chaque fois que j'y pense, ça fait du bien à mon cœur et à mon âme. Amen. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Lamentation 3:21 encore. Voici ce que je veux repasser. Voilà ce que je vais décider que je vais repenser. Voilà. Vrai, honorable, juste, pur. Hein? Voilà, c'est ça que je vais vouloir faire. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui va me donner de l'espérance. Voilà ce qui va me faire du bien. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. C'est bon pour tous les jours de la semaine. C'est bon pour les lundis matins aussi. C'est bon pour tous les jours de la semaine. Oh, que ta fidélité est grande. Alors que le prophète touche au fond de l'abîme, du désespoir, on assiste ici au sursaut de la foi. Il lui faut pour cela discipliner sa pensée, faire ses efforts pour la concentrer sur les raisons d'espérer, des raisons qu'il trouve dans le caractère de l'Éternel, dans sa bonté, sa fidélité. Il lui faut cultiver l'espérance. Vous voulez prendre soin de vos tomates parce que vous voulez manger des bonnes tomates à un moment donné cet été. Alors, il faut les cultiver, les plants de tomates. Il faut les cultiver, les plants de fraises. Il faut les cultiver, les plants de toutes sortes de choses. Non, il ne faut pas tirer tout de suite sur les petits brins de carottes qui vont commencer à pousser. C'est pas mal trop tôt pour ça. Mais il faut cultiver, il faut nourrir, il faut arroser, il faut fertiliser. C'est la même chose pour l'espérance. Il faut cultiver l'espérance. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. L'espérance ici, ce n'est pas de l'ivresse ou une drogue illusoire pour fuir la réalité. Non, la foi ici, c'est l'espérance ici, c'est l'expression d'une foi qui prend appui sur Dieu tout en étant lucide devant la réalité. Je peux me sentir en prison, mais je peux espérer en l'Éternel. Je peux me sentir abattu, attaqué, et peut-être que je le suis, mais je peux continuer à croire que ses compassions ne sont pas à leur terme. La foi ne fait pas échapper à la souffrance, mais on peut vivre sa souffrance dans la foi et ainsi mieux l'assumer. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?